Alors, c'est une lecture très intéressante que nous avons aujourd'hui parce qu'elle est très difficile. Et c'est toujours bien d'avoir des lectures difficiles parce que c'est un défi pour comprendre. Vous verrez que dimanche prochain, il y a un texte apparemment beaucoup plus simple qui en fait relève aussi quelques difficultés. Et pourquoi c'est difficile ce texte ? Eh bien, parce qu'on a l'impression que le seul fait d'être riche vous condamne. Et ça, c'est quand même un peu curieux. Jésus jamais ne condamne quiconque. En tout cas, pas parce qu'on est riche, ni d'ailleurs parce qu'on est pauvre. Et pourtant ici, il y a une chose, il y a un détail que peut-être vous avez remarqué, les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que, ça c'est évidemment une pointe dans l'Évangile, c'est toujours très important de relever ces détails, l'homme riche ne porte pas de nom. Le pauvre, lui, il a un nom. Il s'appelle Lazare. On connaît son nom. Et le riche, il s'appelle quoi ? Le riche, il s'appelle bouffe. Il s'appelle fric. Il s'appelle compte en banque. Il s'appelle carrière. Il s'appelle grosse bagnole. Il s'appelle frime. Le riche, il n'est que riche. C'est-à-dire pas grand-chose. Et si l'Évangile dénonce depuis dimanche dernier et dimanche d'avant, si l'Évangile dénonce comme ça avec insistance la richesse, c'est pas parce que nous autres riches nous serions mauvais, par essence, mais c'est parce que le danger nous guette. Le danger de ne faire de notre personnalité, de réduire notre personnalité à ce que nous avons. Nous sommes infiniment plus que ce que nous avons. Nous valons infiniment plus que nos succès dans les études. Nous valons infiniment plus que les biens que nous croyons avoir. Les biens si mal nommés, qui souvent sont des mots. Un mal, des mots. Alors, vous allez me dire, c'est quand même pas un mal que d'avoir une grosse bagnole. C'est quand même pas un mal que d'avoir beaucoup d'argent. Non. Et vous auriez raison de dire ça. Sauf que, on n'a jamais vu un pauvre se vanter qu'il était pauvre. Alors qu'un riche, est-ce que vous avez déjà entendu un riche dire « Je suis riche, mais vous savez, j'y suis pour rien. » Et je ne crois pas. Un riche, le problème de la richesse, et c'est ça que le Christ dénonce, bien sûr. C'est pas la richesse comme telle. Lui-même, d'ailleurs, vous savez, il était fils de charpentier. Alors souvent, l'imagerie a fait du pauvre Jésus. Mais non, il n'était pas pauvre. Le charpentier, c'était le numéro 2 du village. Il était probablement riche, il a probablement, enfin son papa, il a probablement fait des études, probablement à Jérusalem, d'ailleurs, auprès des meilleurs rabbins. Et ça, on le sait, parce que quand il va à 12 ans rejoindre Jérusalem, il est accueilli par eux comme si c'était un élève coutumier de la maison. Il est comme chez lui avec les maîtres de la loi. Donc c'est un gamin de bonne famille qui a fait de bonnes études et dont les parents sont assez fortunés. Donc Jésus n'a rien contre les pauvres. Par contre, il veut à tout prix que nous comprenions que l'essentiel dans notre existence, c'est de savoir que ce qu'il y a de plus grand en nous, ce ne sont pas les choses matérielles. Ce qu'il y a de plus grand en nous, c'est les services que nous rendons. Ce qu'il y a de plus grand en nous, c'est les gens que nous aimons. Ce qu'il y a de plus grand en nous, c'est l'amour qu'on nous porte. Voilà ce qu'il y a de plus grand en nous. Nos capacités à nous émouvoir, nos capacités à réfléchir. Ce qu'il y a de plus grand en nous, c'est les gestes quotidiens de la fraternité, de l'amitié, de la tendresse. Voilà ce qui est le plus important pour nous. Un riche risque de l'oublier. Un pauvre ? Non. Il sait, lui, qu'un geste fraternel peut le sauver. Il sait, lui, que l'amitié, c'est tout ce qui lui reste. Donc voilà pour vous voyez, cette leçon un peu rudasse. Mais il y en a une deuxième dans ce texte d'Évangile sur lequel je voudrais insister, parce que ça paraît comme ça une sorte de détails, de contes de fées un peu. On nous dit que Lazare, donc, celui qui a un nom, monte au ciel. Est-ce que vous avez remarqué, il est auprès d'Abraham. C'est rigolo, ça. Vous saviez que le paradis, c'était d'habiter avec Abraham ? Donc, ben voilà, on le trouve dans l'Ancien Testament, on le trouve dans le Nouveau. Et donc, il est auprès d'Abraham, et puis l'autre, il est en train de crever. Il est en train de souffrir. Et petit à petit, il se tourne vers Abraham, et à mon avis, il connaît le salut. Pourquoi ? Est-ce qu'il connaît le salut parce qu'il est en train de souffrir ? Certainement pas, quelle horreur ! C'est certaininement pas la souffrance qui nous sauve. La souffrance nous casse, la souffrance peut nous abattre. Et les chrétiens, nous n'arrêtons pas de consacrer de l'énergie pour précisément soulager la souffrance. Donc la souffrance n'est pas en train de sauver cet homme. Qu'est-ce qui est en train de le sauver ? Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, il change. La première fois qu'il parle à Abraham, il dit « J'ai soif, envoie Lazare !» Autrement dit, Lazare est toujours son larbin. Autrement dit, il est toujours celui qui doit être servi. Et puis la seconde fois, qu'est-ce qu'il dit ? C'est le début du salut. La seconde fois, il se tourne vers Abraham et lui dit « J'ai des frères. » Voilà le salut. « J'ai des frères. Envoie donc Abraham pour intercéder auprès d'eux. » Voilà le salut. Il commence à penser aux autres. Il commence à vivre de la compassion. Il commence à trouver qu'il y a plus d'intérêt dans le salut de ses frères que dans son salut à lui. Il est sauvé. À mon avis, vous voyez, la parabole n'a pas besoin d'aller plus loin. Cet homme est sauvé. C'est évident qu'il va s'ouvrir au bonheur éternel. Pourquoi ? Parce qu'il était capable, évidemment, au dernier moment, si j'ose dire, mais c'est déjà essentiel, il était capable de vivre de la compassion. Il a été capable de penser aux autres, et de penser aux autres jusqu'à s'oublier lui-même. Alors en ce début d'année, parce que nous sommes toujours en début d'année, n'est-ce pas ? C'est la rentrée des scouts aujourd'hui, rentrée de l'aumônerie, rentrée du groupe musical. Eh bien, c'est quelque chose qui est très important à bien garder en tête. Ce qui nous grandit dans notre existence, qui fait que vous êtes des gens de valeur, c'est votre capacité à vous ouvrir aux autres. Il n'y a rien d'autre qui compte. Tout le reste, c'est du mensonge. On vous ment quand on vous dit que l'essentiel, c'est de réussir ses études. On vous ment quand on vous dit que l'essentiel, c'est de bien gagner sa vie. C'est du mensonge, c'est du bourrage de crâne. L'essentiel dans votre vie, c'est le service. L'essentiel dans votre vie, c'est d'être aimé. D'ailleurs, vous le savez bien. Vous avez grandi parce que vous avez été aimé. Et vous voyez bien, même nous qui sommes d'un certain âge, on a besoin d'être aimé. Et ça, c'est l'essentiel. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer, on a besoin de servir. C'est pas tant que les autres ont besoin de notre service, c'est que nous ne sommes vraiment pas grand-chose si nous ne servons pas. Alors aujourd'hui, vous voyez, où il y a plein de gens dans cette église qui rendent service, c'est l'occasion de vous dire, d'abord de vous dire merci, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de faire vivre cette paroisse, puis en plus de vous dire que vous avez raison, quoi. Ne quittez pas cette voie. Ne quittez pas cette voie. Tout à l'heure, j'étais avec, petite confidence, j'étais avec le groupe scout, puis il y a des chefs qui arrêtent d'être chef scout après 2 ans, 3 ans. Mais c'est extraordinaire ce qu'ils ont vécu pendant 2 ans, 3 ans. C'est extraordinaire. Alors vous savez, être chef de groupe, chef d'unité, des choses comme ça, c'est pas très facile tous les jours. Mais quand on vit ça, on se rend compte qu'on se déploie, qu'on grandit. Que faire grandir en nous la générosité, faire grandir en nous le souci d'autrui, c'est ça le bonheur, c'est ça la vie. Alors que Dieu nous donne un surcroît de générosité, c'est là certainement qu'est notre salut.